C'est Romains 12, du verset 1er au verset 1 et 2. Ça y est, vous y êtes ? Alors, moi, je vais lire dans une version paraphrasée et traduction dynamique. Traduction dynamique, contrairement aux littérales, traductions littérales mot à mot, essaye de vous donner l'idée comme si vous étiez à l'époque où ça a été écrit au temps de Paul. Vous voyez, si vous étiez Paul, vous écoutiez Paul, vous compreniez avec les mots et tout ça de l'époque, et vous compreniez la parole tel que le Saint-Esprit l'a donné à Paul. Donc ce genre de traduction essaie de faire la même chose. Donc ne pas traduire littéralement les mots qui parfois ne veulent plus rien dire, mais qui prennent des mots, des phrases, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle la traduction dynamique. Il y en a plusieurs, et Alfred Kuhn, entre autres, a cherché à faire ça. Et donc c'est dans une traduction « Lettre pour notre temps » d'Alfred Kuhn. Je vous donne mes sources parce que vous allez voir que c'est différent de vos Bibles, mais c'est la parole de Dieu. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. » C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'était le thème de l'université d'été, rentrer dans une réelle maturité. Qui ne veut pas devenir mature ? Pas forcément évident. L'enfance, c'est agréable. Hein ? Un jour, Olivier, je ne sais plus à quel âge, c'est Michel qui pourrait le dire, dit, ah, je veux rester enfant. C'est vrai qu'il a été très content, il y avait les jeux, les Lego, les machins et tout ça. Et c'est vrai que devenir adulte, c'est tout un problème. Hein. Et on aimerait bien rester enfant toute sa vie. Eh bien, dans la vie chrétienne aussi, Dieu veut nous faire avancer pour entrer en pleine maturité. Vous avez envie de ça ? Oui ? Ah non, mais je vous force pas, hein, parce que c'est pas évident, hein, on rencontre des problèmes, il faut les régler, voilà, il faut régler les factures et tout le bazar. Alors, deuxième passage, qui va un peu dans le même sens, mais qui exprime les choses différemment, Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, nous sommes invités à marcher en ayant les yeux fixés sur Jésus. Qui fait quoi ? Ici, dans le verset, qu'est-ce qu'il mène ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il mène notre foi à la perfection. Est-ce que votre foi est parfaite ? Est-ce que vous avez une foi parfaite ? Non. Donc, je pense que ça vous intéresse ce matin de savoir que le Seigneur nous aide amener notre foi à la perfection. Alors, nous avons vu pendant 2 jours, hein, j'ai pas la prétention de résumer les 2 jours, mais la notion de perfection dans la parole de Dieu, qui, pour votre information, dans le texte grec, c'est télios. Devenir parfait. Parfait dans la foi, parfait dans l'amour, parfait en toute chose. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Il devrait tendre vers la perfection. Télios. Hein. Parce que là, j'ai pris un passage qui parle de la foi, mais on parle aussi de toutes sortes d'attributs chrétiens pour mener à la perfection. Et ça a été, on en parle ce matin, la théologie de Wesley, amener le chrétien à la perfection. Bien sûr, si on cherche la perfection par la perfection, on tombe dans le perfectionnisme. Hein. Le perfectionnisme, c'est horrible. Hein, pour vous, pour ceux qui vous entourent, c'est une catastrophe. Parce que c'est l'idole de la perfection. Hein. On idolâtre la perfection. Là, il n'est pas question d'idolâtrer la perfection, c'est d'amener le chrétien à la perfection. Vous voyez, parce que Dieu est parfait. Et le mot parfait signifie davantage complet que un idéal de beauté. Et en général, moi je préfère traduire, enfin les Anglais traduisent ça par wholeness, qui est très difficile à traduire en français, moi je l'appelle plénitude. Plénitude, voilà, traduit par plénitude. Alors, la plénitude de la foi, ou quelque chose de plein, quelque chose de complet. Voyez-vous ce que je veux dire ? D'amener la foi à quelque chose de complet. C'est quoi la foi complète ? Alors attendez, il faut que je prenne mes notes parce que... Alors le message de ce matin rentre dans un cadre, hein, c'est le cadre de cette série que j'ai faite cet été et qui n'est pas terminée malheureusement, mais est assez longue. Qui est sur l'histoire de l'Église évangélique, qui est l'Église protestante évangélique. Hein. Donc Luc Maroni a fait cette frise là qui nous a donné où on voit effectivement des figures du protestantisme. D'abord la réforme protestante, 16e siècle, 17e, 18e, 19e, 20e et le début du 21e siècle. Donc on est là. Donc c'est l'histoire. Et comme je vous le disais, l'année prochaine, 2017, en France, on va fêter les 500 ans de la réforme protestante et vous entendrez dans les grands médias, puisque la Fédération protestante prépare de grandes interventions sur la télévision et ailleurs, de ce 500e anniversaire de la réforme. Et donc c'est important, c'est que vous puissiez répondre aux gens. Ce serait aberrant que les gens vous posent des questions et que vous ne sachiez pas répondre. Bon, vous pouvez consulter, bien sûr, à ce moment-là, mais c'est bien de se préparer pour que vous puissiez comprendre comment nous en sommes arrivés ici, avec ce que nous croyons, notre doctrine, ce que nous sommes, etc. Parfois, des gens qui savent pas ce que c'est que les pentecôtistes, les charismatiques, les méthodistes. Alors, on peut pas tout savoir. Hein. Même cette frise-là ne présente pas tout, mais ça présente un certain nombre de choses importantes. La réforme protestante. En fait, il y a 5 réformes. Déjà, il n'y en a pas qu'une. La réforme de Luther, réforme de Calvin, la réforme anglicane, la réforme radicale et la réforme catholique. Les catholiques ont réformé un petit peu après, hein, c'est le concile de Trente, ça s'appelle la contre-réforme parce que voilà, les protestants disons contre-réformé, mais ils ont réformé. C'est là la première fois qu'ils ont écrit leur dogme, leur doctrine clairement et depuis l'Église catholique suit ces dogmes du concile de Trente. Donc il y a 5 réformes. Et l'Église s'est réformée, catholique, justement parce que Dieu l'a poussée à ce que l'Église dans son ensemble puisse se préparer, parce qu'on est à la fin des temps, le retour du Seigneur. Première réforme. Dans cette réforme, on a vu, hein, je ne vais pas revenir dessus, une doctrine particulière qui a été mise en avant, Mais dans le christianisme, il n'y a pas qu'une doctrine. La doctrine, c'est un ensemble c'est une vérité sur un élément. Hein, c'est sur un élément. C'est pas toute la doctrine de la Bible. Donc, quelle est la doctrine qui a été mise en avant et qui a été remise, en premier plan de la foi chrétienne? Pardon? Salut par la foi. Ah oui, vous me rassurez quand même parce que après 2 mois de répétition, ça devrait rentrer. La justification par la foi. Nous sommes justes. Comment nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous sommes justes par les œuvres? Est-ce que nous sommes justes? C'est justement le problème à l'époque où l'Église catholique avait introduit la notion des indulgences, hein, où finalement on rentre dans un milieu, dans un purgatoire, on ne sait pas trop ce que c'est, et là on attend, et en fonction de ce qu'on fait, eh bien on rentre plus rapidement, plus ou moins rapidement au ciel. Et donc, en fonction des œuvres, eh bien, on vous donne des tickets que vous consommez ou consommez pas. Et voilà, c'est tout un système de tickets pour rentrer au ciel. Vous voyez, donc, c'est un système qui était inventé, qui n'est pas du tout biblique, et qui permettait de contrôler les chrétiens dans l'Église. Et Luther a été horrifié. Je vous ai recommandé le film Luther, qui est très, très bon film. Regardez-le avant 2017, ce serait vraiment désolant que vous le fassiez pas, parce que ça vous donne beaucoup d'informations sur cette époque et sur ce qui s'est passé au moment de Luther. Le salut par la foi. Justifié par la foi. La justification. Nous sommes justes. Le voile est tombé. Jésus est mort. Le voile est tombé dans le temple et nous sommes tous prêtres. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est une vérité qui avait été mise aux oubliettes. Mais ce n'est pas la seule vérité de la Bible. Concernant la maturité, ça ne dit absolument rien sur la maturité. Justifié, nous le sommes, mais après, nous pouvons rester complètement immatures jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Donc il y a d'autres vérités qui doivent être mises en lumière. Et ça a été le cas 2 siècles après, donc ça c'est le 16e siècle, et la partie verte là-bas, c'est marqué 1700 parce que c'est le début du siècle, mais c'est le 18e siècle. La partie verte, 18e siècle, on a redécouvert une autre doctrine. Enfin, c'était mis en avant une nouvelle doctrine. C'est laquelle? Pardon? La sanctification. Justification, sanctification. Parce que Dieu est juste, mais il est saint aussi. Saint, saint, saint et l'éternel. 3 fois saint, il n'a rien à voir avec le péché, il n'a rien avec le mal, etc. Et donc, nous sommes supposés, en tant que chrétiens, vivre dans la sainteté. Alors, c'est une doctrine un peu plus difficile parce qu'elle n'est pas instantanée. La justification par la foi est instantanée. Dès que vous acceptez Jésus et le sacrifice qu'il a fait pour vous, vous êtes sauvés. Amen. La sanctification, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est plus difficile. Et ça n'a pas été mis en lumière un peu avant, parce que c'est toujours aujourd'hui difficile, hein, la sanctification. Parce que ou on tombe dans le perfectionnisme, ou on tombe dans le laxisme. Ou on est au milieu et on trouve la bonne voie de la sanctification, et c'est tout l'enjeu de cette doctrine. Là, il est dit que dans Romains 12, tout à l'heure, on a vu que Dieu veut que nous changions de mentalité, que nous n'adoptions pas la mentalité du monde, mais que nous changions de mentalité. Mentalité, ce mot en grec, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est la repentance, c'est-à-dire changer de direction. Voyez, comme au ski, vous allez dans l'autre sens. Okay, donc ça veut dire quelque part, il faut s'arrêter. Il faut freiner parce que vous ne pouvez pas le faire en pleine vitesse. Il faut aller dans l'autre sens. Et c'est un peu ce que Charles ou Ruben vous ont dit tout à l'heure à l'université d'été. L'idée, c'était de dire, attention, vous avez une mentalité, mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain passer une autre mentalité. D'ailleurs, si vous vous adressez à quelqu'un qui a une mentalité d'une certaine manière, si vous voulez changer sa mentalité, la personne va devenir très méchante avec vous. Très très méchante. Pourquoi? Parce que c'est sa sécurité d'être dans cette mentalité. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un change de mentalité, c'est pas possible. Il y a toute une stratégie de sagesse pour l'aider. C'est pour ça qu'on a pris 2 jours aussi pour déconstruire une mentalité le premier jour et reconstruire une nouvelle mentalité le deuxième jour. Mais ceci étant, ça vous prendra du temps si vous voulez reconstruire. C'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut changer de mentalité pour ne pas être entraîné par le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15, verset 5 pardon, dit n'aimez pas le monde parce que le monde c'est inimitié contre Dieu. Il est inimitié, c'est-à-dire c'est à l'opposé. Dieu est non pas le monde puisqu'il a donné son Fils, mais il est la mentalité du monde. Or nous, nous avons tous quelque part la mentalité du monde si nous ne faisons pas attention. Pour être chrétien et avoir la mentalité du monde, c'est ce que nous avons vu ces deux jours. Et des modèles que je vous ai montrés, 4 modèles, qui nous entraînent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Et donc il faut prendre conscience qu'on est dans la mentalité du monde et chercher un nouveau modèle vers lequel nous pouvons aller, c'est le modèle biblique. Mais si on ne vous l'a pas enseigné, vous ne le connaissez pas. Même Wesley, qui l'a enseigné, il n'était pas enseigné sous la forme que je voulais enseigner hier, enfin à l'université. C'est un dénommé Albert Outler, qui est un méthodiste américain au XXe siècle, qui avait un PhD de Yale en théologie, qui a mis en évidence cette doctrine qui est le quadrilatère de Wesley, quadrilatère wesleyen. Je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Alors, on va se concentrer un peu sur Wesley. Donc, Wesley, il est présenté ici, comme là au milieu du panneau. Wesley et les méthodistes. Alors, souvent, vous savez, les luthériens, luthérianisme, Calvin, calviniste, Wesley, on pourrait dire wesleyanisme. Et en fait, c'est méthodisme. Pourquoi ça s'appelle méthodisme? Pourquoi ce que Wesley a commencé s'appelle méthodiste? Parce qu'à Oxford, parce que c'est un homme très 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 cultivé, un anglican, était pasteur anglican. Son père, Samuel Wesley, était prêtre pasteur anglican. Il était issu d'une fratrie de 19 enfants. Donc c'est Suzanne Wesley qui a élevé ses enfants. Et je vous signale que Suzanne Wesley, elle a passé une heure par jour avec chaque enfant jusqu'à leur majorité. Vous voyez, cette femme était méthodique. Et lui, il est devenu méthodique. Et à Oxford, quand il a créé le Holy Club avec son frère, Charles Wesley, et un ami Whitfield, ils ont appelé les méthodistes, parce qu'ils étaient méthodiques. Et donc, il y a un aspect méthodique dans la vie chrétienne et dans la sanctification. Wesley était effectivement pasteur anglican. Il a fait toutes ses études de théologie à ce moment-là, et il a dit à ses parents, écoutez, là, j'ai envie de connaître un peu le monde, je vais aller aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis avec son frère, avec des amis, pour servir un petit peu l'église là-bas. Et en fait, pendant un an, Dieu l'a conduit, mais en fait, c'est sur le bateau qu'il a rencontré un frère morave. Les Moraves, c'était des gens qui cherchaient le Seigneur, non pas par l'intelligence, mais par la piété, par le cœur. Ils cherchaient à connaître Dieu par le cœur. Donc ça, c'est toute l'histoire de Spener que je vous ai racontée au XVIIe siècle. Et en Allemagne, donc en Saxe, près de Berlin, eh bien, il y a un comte, Zinzendorf, qui est un comte qui avait des grands territoires, qui a accueilli les frères moraves, qui étaient persécutés en Moravie, Moldavie, la Tchécoslovaquie, etc. Et il les a accueillis, et lui-même, qui était touché par le piétisme des frères moraves, a ouvert ce mouvement morave, et pendant 100 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il se consacrait à la prière. Donc vous voyez, la maison de prière, on a déjà là un modèle de maison de prière. Et à partir de ce mouvement morave, c'est là qu'a commencé les missions. les missions mondiales. Ils ont envoyé 300 missionnaires, alors que c'était un petit groupe, dans le monde entier à ce moment-là. Le luthérianisme n'a pas produit une missionnaire. C'était une doctrine statique, passive, mais pas de dynamique. Là, les Mouraves ont amené un élément dynamique. Et sur le bateau, Wesley rencontre un Mourave et il est touché par la grâce. Il a vu cet homme qui lui témoignait de Jésus-Christ, etc. Et c'est là qu'il a fait une expérience de conversion. L'expérience de conversion de Wesley date de ce moment-là, 1738. Son frère, Charles, qui lui était plutôt un poète, lui était plus un théologien, son frère Charles était touché en même temps, le même jour, un peu comme la Pentecôte, ils se sont rencontrés. Et là, ils ont démarré le Holy Club à Oxford avec Whitfield. Whitfield, c'était donc aussi un ami à lui, et c'est là qu'a commencé le méthodisme. La particularité de Wesley, c'est qu'il n'a jamais quitté l'église anglicane. Il n'a jamais renié, il n'a jamais été mis à la porte, quoi que ce soit, etc. Contrairement à d'autres, etc. C'est pas un jugement, c'est un constat. Ce qui fait que il n'a jamais pensé être obligé d'écrire une somme théologique. Vous voyez, Thomas d'Aquin, je ne sais pas combien il a écrit, puisque pendant 40 ans, il n'a fait qu'écrire tous les ans une somme théologique. Et donc maintenant, on a une somme énorme. C'était avec Augustin. Qu'est-ce que je dis, Thomas? Non, c'est Augustin. Saint Augustin, Saint Thomas. Lui n'a jamais écrit quoi que ce soit au niveau théologique. Il a dit la confession anglicane qui était écrite, ça suffit largement. Mais ces 18 000 sermons, quand on les analyse, eh bien, il y a une théologie justement de la sanctification qui en ressort. Alors, je suis en train de regarder mes notes parce que il y a des choses que je voulais vous lire, d'autres qui... Attendez. Voilà. J'ai retrouvé. Quand il est revenu en Angleterre, donc George Whitfield et John Wesley, qui ont démarré le Holy Club à Oxford, ils étaient étudiants, et Wesley se rendit compte, voilà, il voulait prêcher aux Indiens en Amérique, et donc là il rencontre ce frère Mourave. Il faut savoir que le summum, et à l'époque les Anglicans, qui étaient aussi justification par la foi à l'époque, il n'y avait pas la sanctification, ils étaient élitistes, c'est-à-dire ils adressaient leur message aux gens bien, voilà, aux gens des églises bien. Mais ils délaissaient complètement les mineurs. Il y avait des mineurs à l'époque, il y avait des mines de charbon et tout ça, et ils s'en occupaient pas, et les mineurs n'avaient personne qui leur prêchait l'évangile. Et Whitfield va à Bristol, où il y a des grandes mines, et là, il dit, c'est pas juste que ces mineurs n'aient pas droit à l'évangile. Et il y va, et il prêche. Et ensuite, après, Wesley vient avec lui. Donc, ils sont toujours adressés aux gens les plus pauvres de l'Angleterre. Et voilà quelques extraits de ce qui s'est passé là-bas. Le summum, par exemple, du ministère de Whitfield, coïncidait avec le réveil en 1742 à Cambuslang, Lang, où 20 à 30 000 personnes, sans micro, sans sono, sans rien, sur un terril, il prêchait à voix nue. Hein. Voyez-vous, comme quoi la technologie, c'est pas le plus important. 30 000 personnes s'assemblèrent pour écouter prêcher. À la suite de sa prédication, il y eut des pleurs et une repentance en masse pendant une heure et demie. Durant son ministère, Whitfield prêcha dans presque chaque ville d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles. Il traversait l'Atlantique 7 fois et gagna d'innombrables âmes à Boston, New York, Philadelphie. On estime qu'il prêcha environ 18 000 messages remplis de puissance, bien qu'aucun des 75 sermons enregistrés ne rende justice à son style et sa façon de les livrer. John Wesley, qui était l'ami de Whitfield, revint l'honneur d'être dans l'histoire l'architecte du réveil évangélique. Converti en 1738 lors d'une réunion de prière dans la fameuse rue Aldersgate, il continue à prêcher en plein air à Bristol et suivit Whitfield dans les endroits où ce dernier alla prêcher. C'est là que commencent ces manifestations inhabituelles qui étaient périodiquement présentes dans son ministère et celui de Whitfield. Des gens tombaient, criaient, s'évanouissaient, hurlaient, se tordaient de convulsions, etc. Wesley commença sagement des petites sociétés conçu pour servir à l'encouragement et le soutien mutuel, donc des petits groupes de maisons, etc. Celles-ci devinrent les précurseurs des réunions dans les salles de classe et ensuite de l'église méthodiste. Elles étaient sûrement utilisées pour conserver les fruits de l'œuvre du réveil de Wesley. Il fut prédicateur itinérant pendant 65 ans, il mourut à 83 ans. Il parcourut lors de ses voyages à cheval une distance estimée à 400 000 km et il prêcha 40 000 sermons. Il écrivit 233 livres en comptant ses volumineux mémoires et commentaires complets sur la Bible entière. Il laissa derrière lui 750 prédicateurs en Angleterre, 350 en Amérique, 76 968 méthodistes en Angleterre et 57 621, c'est précis, en Amérique. Avec son frère Charles, il composa 9000 hymnes à la gloire du Seigneur et l'influence de Wesley dépassa largement le cadre de sa vie. Ses pratiques et sa théologie ont touché des groupes de sainteté, de réveil, pentecôtistes, charismatiques et même jusqu'à nos jours. C'est un grand réveil. En France, on le connaît pas, mais je le connaissais pas. Hein. Je pense que je suis pas sociologue, j'ai pas étudié la question, mais c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, c'était l'époque de Louis XIV, persécution des Huguenots. Donc, en dehors des catholiques, on connaissait personne, et ça s'est passé à ce moment-là en Angleterre. Les méthodistes, il y en a qui connaissent les églises méthodistes en France ? On ne connaît pas. Je sais que là, ils rentrent dans la fédération protestante. Une petite, ils sont surtout en Alsace, Montbéliard, enfin dans ce coin-là, voilà. Issus de l'Allemagne. Hein. Donc on ne connaît pas les méthodistes. On ne connaît pas Wesley. On ne connaît pas. Et c'est fort dommage parce que justement, c'est de lui que naît vraiment nos convictions évangéliques. La pensée de Wesley, voilà. La pensée de Wesley va plus loin que la justification par la foi. Elle touche effectivement la vie du croyant. Comment est-ce que le croyant vit une fois qu'il est sauvé, une fois qu'il est avec le Seigneur? Ça ne suffit pas. Il faut être un témoignage vivant de la puissance, de la gloire et de la grâce du Seigneur. Et c'est ça qui était, eh bien, sur son cœur. C'était d'amener les chrétiens qui étaient anglicans, puisqu'il est toujours resté anglican, c'est juste à la fin de sa vie, qu'ils ont créé, qu'ils ont reconnu l'église méthodiste comme une église d'État en Angleterre. Vous voyez? Donc on est loin de réaction. Il n'a jamais réagi. Il a toujours agi. Parce que très souvent, on se construit par réaction. Et ça, c'est très mauvais. Et beaucoup de chrétiens se construisent par réaction. Et du coup, ils sont mal construits. Si on se construit par action, sans réagir, on peut se construire sereinement. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant, c'est pareil, voilà, tout ce qui est par réaction, c'est pas bon. D'ailleurs, la Bible devrait nous aider à avoir un modèle. Et c'est ce qu'on a fait à l'université d'été. Je vous ai montré un modèle biblique. Il est là, mais la plupart des chrétiens ne voient pas le modèle. Okay? Wesley l'a mis en évidence, mais pas sous forme théologique, puisque c'est au XXe siècle, Auclair, qui au travers des études qu'il a fait de tous les sermons, il a vu ce modèle. Alors je vous présente rapidement hein, ce modèle. Ce modèle, c'est un quadrilatère wesleyen, donc quatre côtés. Hein, ceux qui ont fait des maths, un carré à quatre côtés. Ici, et je vous donne l'énoncé d'abord de ce quadrilatère wesleyen qui était nommé par Auclair, donc pas par Wesley. L'essentiel de la foi chrétienne, puisqu'on parle de la foi qui doit devenir mature, l'essentiel de la foi chrétienne est révélé dans les Écritures. Premier point. Révélation dans les Écritures. Donc la foi dans les Écritures. Voyez-vous, les Écritures, c'est la révélation de Dieu, de la pensée de Dieu, de la mentalité de Dieu, de tout ce que Dieu pense sur nous, pense sur son projet, pense sur son plan, pense, etc. Tout ce que nous sommes supposés savoir sur Dieu et sur nous. Hein, parce qu'il n'y a pas que des livres qui parlent de spirituel, des livres de sagesse parlent de sagesse humaine. Tous les livres de sagesse. Hein. tous les livres prophétiques, ils ne parlent pas tous du spirituel, ils parlent aussi comment vivre avec notre voisin. Jésus, il a dit, aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain. Et la théologie de Wesley, c'est la théologie de l'amour. Il a toujours pointé sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais comment est-ce qu'on peut exprimer l'amour du prochain en parlant que de choses spirituelles? C'est là le problème. Donc on a besoin d'autre chose. Et là, Wesley, voilà, il ne l'a pas fait exprès, il a simplement laissé guider par le Seigneur. Il a dit, l'essentiel de la foi chrétienne est révélé dans les Écritures. Elle est éclairée par la tradition. Vous voyez, tradition, ça a son importance. Et quand vous pensez tradition, vous pensez à transmission. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Élie n'était pas tout seul, il pensait être tout seul. Mais Dieu a dit, non, il y en a 7000, attention, calme-toi. Voilà. Mais très souvent, nous pensons être tout seul. Et ça, l'ennemi aime bien nous faire croire que nous sommes... Non, le Seigneur est Seigneur. Et il se met des personnes qui sont... Et aussi des personnes qui nous précèdent et des personnes qui nous succèdent. Donc la transmission de la foi a son importance. Donc, révéler dans les Écritures, éclairer par la tradition, c'est pas révélé, c'est éclairé. C'est vivifié par l'expérience. Et combien lui-même a été vivifié, puisqu'avec le frère Morave, il a fait cette expérience de conversion, alors qu'en tant qu'anglican, il avait la connaissance, la justification. Mais il a été éclairé par la tradition. Et le dernier, ceux qui étaient à l'université d'été, c'est... Ah, comme quoi, vous voyez, il faut faire des devoirs de vacances, là. Il faut apprendre. Et oui, mais j'attends le verbe. Confirmé par la raison. Oui. Je mets exprès en bleu pour vous montrer que la raison a son importance. Le problème de la foi et de la raison était un débat, et continue d'être un débat chez les chrétiens depuis l'origine jusqu'à maintenant. Est-ce que la raison doit intervenir dans la foi? Est-ce qu'elle doit rentrer ou pas dans la foi? Ben Wesley dit oui. Et moi je dis oui. La Bible dit oui. Le problème de la raison, c'est pas parce que nous, en France, on est les champions, puisqu'on a élevé la Révolution française, l'idole de la raison, qui était Athéna Minerve, qu'on a mis aux Tuileries, qu'on a emmené au Champ de Mars et qu'on a élevé, et qu'on a ensuite après profané toutes les églises avec des prostituées qui, disons, symbolisaient la raison. On a fait vraiment le maximum dans le monde entier et on est pour cela, disons, la ville-lumière au niveau des lumières de la raison. On est d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que la raison doit être jetée au panier. C'est là toute la dimension de la compréhension de la foi chrétienne. Et quand cette raison est absente, et Francis Schaeffer, c'était son leitmotiv, et, bien sûr, on va se faire critiquer énormément, parce que Wesley s'est fait critiquer par les calvinistes. Whitfield, d'ailleurs, l'a quitté à cause de ça. Parce que lui, il a dit non, calvinisme, c'est pas possible qu'il y ait une élite qui soit sauvée, toi tu es sauvé, et toi tu n'es pas sauvé. Voilà. Il dit non, Jésus est venu pour tout le monde. Donc, on présente l'évangile à tout le monde, on fait le choix. Voilà. Donc, il y a eu il reste ce gros débat. Bien sûr, Thomas d'Aquin a introduit la raison, machin, etc. Mais la raison a ses droits. Sauf que, il faut le suivre. Alors, au centre, c'est la connaissance de Dieu. Pour connaître Dieu. Le but, c'est on connaît Dieu par les Écritures, on connaît Dieu par la tradition, on connaît Dieu par l'expérience, on connaît Dieu par la raison. Ces quatre éléments sont ensemble. Et c'est cet équilibre, cette centralité, tout est centré, bien sûr ici, tout est centré sur la connaissance de Dieu. Si on ne fait pas ça, de toute façon, on fait autre chose naturellement. On ne peut pas faire autrement parce que nous avons une âme. Qui est-ce qui n'a pas d'âme ce matin? On a tous une âme. L'âme, c'est notre pensée, nos émotions, notre volonté, notre conscience. Si cette âme n'est pas orientée vers Dieu, elle est orientée vers le monde. Voilà. Et elle est naturellement orientée par le monde, puisque quand on est un petit enfant, son environnement, c'est le monde, et il est influencé par le monde. Donc il faut une déprogrammation volontaire de ce que le monde nous injecte pour adopter la voix de Dieu, les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont ici, qui sont représentées ici. Si nous ne le faisons pas, eh bien, le monde, ici, a une tradition. D'accord ? Il a une tradition. Ça s'appelle la tradition primordiale. D'accord ? Et il y a une finalité aussi, de l'expérience ici, qui est quoi ? Qui est de devenir Dieu. Il y a une finalité, hein, le monde de devenir Dieu. Voilà. Et entre les deux, il y a une progression, qui est comme ça, et le monde nous entraîne à aller dans ce sens en disant « je crois », donc il y a la foi, hein, « je crois », donc la foi est présente, et « je pense ». Quand on ne centre pas la foi dans les Écritures, la tradition, l'expérience et la raison sur Dieu, on est obligé de suivre ce modèle-là. Vous avez reconnu celui qui est en bas ? Je pense donc, je suis. Descartes. Rationalisme. Si on se laisse, si on ne comprend pas ça, le quadrilatère de Wesley, eh bien, on va penser. Et alors, bien sûr, on est jamais Descartes. Hein, Descartes, je pense, c'est l'idolâtrie de l'ego, ok, de la raison. Mais on est forcément entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? On est forcément entre les deux. Alors, c'est quoi cette raison ? Comment Wesley décrit cette raison quand il dit confirmée par la raison ? La foi est confirmée. Enfin, l'essentiel de la foi, c'est confirmée par la raison. Alors, si on reste sur la raison là. Dieu, est-ce que Dieu est illogique ? Est-ce que Dieu est irraisonnable ? Est-ce que Dieu n'a pas d'intelligence ? Est-ce que Dieu... Parce que la raison, c'est l'intelligence logique. Okay ? L'intelligence logique, la raison, le logos. Personne de sensé, en tout cas chrétien, va dire qu'il est irraisonnable. Donc, il y a la raison divine, qui est la première raison, et il a créé l'homme... Au-dessus des animaux, les animaux même ont une raison, ont une intelligence, sauf que c'est pour leur nourriture. Hein. Il y a certains animaux qui sont plus évolués, c'est d'où l'idée d'évolution du singe vers l'homme. Hein. C'est que l'homme, il a la capacité de raisonner, de mettre son intelligence au service de Dieu et au service des autres. Donc l'intelligence, la raison, doit absolument... être présente chez un chrétien. T'es d'accord, Jean-Baptiste ? T'es d'accord avec ça ? Donc, ici, c'est une raison particulière. C'est une raison qui est soumise à la foi. Voyez-vous, la raison doit être soumise à la foi. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, vous faites marcher votre raison. Si vous expliquez l'Évangile, c'est avec la raison que vous le faites. Bien sûr, appuyé par le Saint-Esprit, mais c'est votre raison. Donc il faut expliquer l'Évangile de manière compréhensible. Si vous adressez un Chinois, vous parlez en français, bah, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. La raison fait que vous dites, non, je vais parler en chinois. Vous voyez ? Donc la raison est présente partout. Donc pourquoi rejeter la raison alors qu'elle est nécessaire à faire connaître Dieu, à connaître Dieu ? Voyez-vous ? Mais ça, c'est le problème aussi des évangéliques qui, par réaction... disent non, la raison, il faut la mettre au panier. Il faut être bête pour être chrétien. Mais j'exagère pas. Si je vais dans le domaine de la foi, je crois, la foi du charbonnier, c'est ce que les Français tournent en horreur. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'extrême opposé. Pourquoi Descartes ? Pourquoi les Français sont là ? Parce qu'ils veulent éviter ça. C'est toujours par réaction qu'on agit. Mais Les deux doivent toujours être centrés sur Jésus, centrés sur la Bible. Je crois que si un chat noir passe, je vais avoir un accident. Je crois que si toute la vie est basée sur la foi. Si je roule et que le feu est au vert, je crois que la voiture va s'arrêter. Mais c'est pas sûr. La voiture s'arrête pas, paf, je me paye le carton et c'est fini. Vous voyez. Donc tout est par la foi. Si je prends un avion, je crois que l'aérodynamique va faire que les ailes vont, etc. Mais voilà, c'est la foi, je veux dire. En plus, si je connais rien de l'aérodynamique, je veux dire, comment ça se fait que, voilà. Donc, vous voyez, tout est par la foi. Là, c'est la foi dans les Écritures. Vous voyez, c'est une foi objective. Les Écritures, c'est écrit. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, il faut toujours que notre vie, quand on a une expérience, il faut référé à l'écriture, pour vérifier si l'expérience ne va pas trop loin. Parce que si on va trop loin ici, on va vers ce que le serpent a déjà fait dans la Genèse, tu seras Dieu, tu auras la puissance, tu pourras faire ceci, tu pourras dominer, tu pourras ceci. Non, il faut à chaque fois que tous les éléments soient centrés. Je crois, c'est naturel de croire, et donc ici, on est dans le domaine du surnaturel. Je crois dans des miracles, superstition. Les Français, c'est incroyable, superstition. C'est pour ça que De Gaulle a dit, les Français, ils aiment bien le merveilleux. Il avait compris. Et d'ailleurs, c'est pas très gentil de la part de De Gaulle, on l'admire, mais il dit, j'aime bien la France, mais pas les Français. C'est De Gaulle. Hein. Voyez, il a dit, les Français aiment le merveilleux. C'est vrai, c'est merveilleux. Mais vous voyez que les deux choses se touchent. Rationalisme et merveilleux, ça se touche. C'est pas pourquoi, parce que c'est charnel, et c'est charnel au plus profond de ce qu'on peut imaginer. Je crois, des choses incroyables, quoi. Dieu peut faire des choses incroyables. Mais quand j'ai une expérience de surnaturel, vérifions dans l'Écriture. Ça c'est Wesley. Ça c'est le quadrilatère de Wesley, le quadrilatère de la sanctification. Alors, vu l'heure, je vais... Oula, j'ai pas vu l'heure, excusez-moi. J'avais juste un PowerPoint à passer, mais très vite, pour vous montrer que cet été, alors que j'ai préparé ces séries pour vous, j'ai compris quelque chose que j'avais pas compris avant. C'est comment marchent les réveils. Vous voyez, on aime tous les réveils. Il y en a qui veulent pas de réveil ici. Alors, on veut tous être réveillés. On veut tous rentrer dans un réveil. Ça, c'est des réveils, là. Tout ça, c'est des réveils. Mais le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés. Ils ont compris. Pourquoi un réveil s'arrête? En Pays de Galles, il a duré 3 ans. Pourquoi pas 4? Il y a d'autres. Le réveil de Wesley a duré 100 ans. Formidable. Vous voyez, comme quoi, quand on est sûr de l'équipe, enfin, quand on est bien fondé, ça peut durer. Un réveil, souvent, on parle de vague de réveil. Vous voyez. Donc, une vague, l'analogie avec la vague est très bien d'ailleurs, c'est pas de moi, hein, tout le monde parle de vague. C'est que, il y a un principe physique où il y a de l'eau qui est, qu'on peut, identifier la nature humaine, c'est la nature, c'est l'eau. Et en bas, il y a un fond. Voilà. Et donc il y a une surface de frottement au fond, et l'eau, si c'est pas très haut, quand le vent vient, et donc là on peut l'associer au Saint-Esprit après, quand le vent vient, il a tendance à donner de l'énergie à la surface de vent, et en dessous ça freine. Donc ça monte, ok ? Ça monte. Donc l'énergie fait que l'eau monte. Mais est-ce que vous avez déjà vu des vagues monter jusqu'au ciel ? Heureusement pour vous, hein, parce que quand ça retombe, ça fait mal. Et pourquoi est-ce qu'elle ne remonte pas jusqu'au ciel? Vous êtes posé la question, là? Ah, il y en a qui connaissent la gravité. Donc, vous voyez, il y a une autre loi qui dit, oh là là, la masse d'eau, là, à un moment donné, pfiou, elle retombe. OK? Voilà, eh bien c'est tout simple, c'est ça. Donc vous voyez ici un réveil, c'est pareil, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et il y a un maximum, et ça descend. Et pourquoi ça descend? Mais parce que la chair ne peut pas supporter d'aller plus haut que l'esprit. Vous voyez ? La chair, c'est ce qui freine le réveil, là. Mais l'esprit est plus fort, et donc ça va. Mais à un moment donné, ça tombe. Alors, un petit conseil, ne soyez pas là-dedans. à la fin du réveil. Très dangereux, vous cassez la figure avec tout le monde. Moi, je préfère prendre la prochaine vague, vous voyez. Parce que la prochaine vague, elle repart sur de bonnes bases et ça repart. Petit conseil au passage. Il y a trois réveils, globalement. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Vous voyez, ici, la rouge, c'est des déformations du réveil. Jesse Payne Lewis, qui a fait un peu le journal du réveil de Pays de Galles, a expliqué, c'est dans la guerre au sein, qui est un pavé comme ça, qui explique toutes les interactions entre l'ennemi, entre la chair, etc., ce qui se passe dans les réveils. Donc, ça s'écroule. Hein, ça s'écroule. Et si vous êtes là-dedans, bah, vous écroulez avec tout le monde, quoi. Et en général, c'est ceux-là qui critiquent le prochain réveil, vous voyez. C'est ceux qui sont là-dedans qui critiquent le prochain. Parce que ils sont tellement sûrs d'être dans le réveil qu'en fait, comme ils sont dans la chair, ben, ils critiquent ceux qui sont dans l'esprit et qui sont là. Pour moi, il y a trois réveils qui sont des réformes. Il y a des réveils qui sont des réveils et d'autres réveils qui sont des réformes. Donc, ce que je propose, c'est effectivement de voir ça comme ça. Luther et Calvin ont été à l'origine de la première réforme qui est la justification. Wesley, une deuxième réforme, avec un réveil qui a duré près de 100 ans, donc qui tenait vraiment la route, et qui, on verra plus tard, le troisième réveil, qui est un réveil œcuménique, c'est-à-dire qui s'adresse à toute l'Église, hein, y compris toutes les dénominations charismatiques et pentecôtistes, c'est le même mot pour la puissance du Saint-Esprit. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais la fin des réveils, ceux qui s'écroulent, bah, ils tombent dans ces erreurs-là. Ici, la foi pour la foi, c'est quoi comme dérive? C'est le fidéisme. Le fidéisme, c'est la foi qui ne veut pas la raison. Donc, elle part à la dérive, foi pour la foi. Mystique, machin, etc. Voilà. Dans toute l'histoire de l'Église, on a les mystiques. Alors on critique les catholiques, mais les évangéliques, il y en a presque plus que des cathos. Hein. Donc c'est humain. Donc le fidéisme, gnosticisme, mysticisme. Moi j'étais quand les inconvertis m'ont dit, mais attends, la franc-maçonnerie, c'est les protestants. Je dis, c'est pas possible. Ben oui, j'ai dû comprendre ça pour montrer que les luthériens, ils ont développé la rose-croix. Je dis, c'est pas possible. Non, c'est les luthériens qui ont développé le pire du mysticisme, pire que les catholiques. Parce que quand on glisse, hein, quand il y a le pot de banane, vous partez par terre. Hein, donc voilà. Ici, c'est le rationalisme. Aujourd'hui, les méthodistes. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est les présidents qui vont dans les églises méthodistes. Il y a 1% des méthodistes, ce sont plusieurs millions, je ne sais pas combien, qui sont fidèles à Wesley. Les autres méthodistes, 1%. Tous les 99%, si vous allez dans l'église, oh, je vais dans l'église méthodiste, faites gaffe. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Les choses ont dérivé et ils sont partis à la dérive, hein, comme tout le monde. Hein. C'est parce qu'ils sont méthodistes qu'ils sont dans ce paradigme-là. Donc l'embourgeoisement, l'élitisme, le perfectionnisme, et pour preuve l'élitisme, hein, Bush, tout ça, ils sont méthodistes. Troisième réforme, c'est quand ça va à la dérive, c'est l'individualisme. Et aujourd'hui, les chrétiens sont dans l'individualisme. Ceux qui pensent être dans le réveil, et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a plus d'amour des prochains, qu'il n'y a plus d'accueil dans les églises, il n'y a plus rien. Ça s'explique. C'est pas un problème. Ça s'explique. Alors que la vraie foi amène l'amour du prochain. C'est-à-dire la foi en action, celle qui sert à quelque chose, celle qui amène les gens à changer de vie et à avoir quelque chose. Nous devrions être les premiers à montrer l'amour au prochain. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben pourquoi ça se passe pas? Ben à cause de ça, parce qu'on se plaît dans un fin d'un réveil qui n'en est plus un, qui est parti complètement à la dérive. Et on voilà. Donc fidéisme, rationalisme, tradition primordiale, eh bien c'est tout simplement le nouvel âge qui l'amène et tout le monde y croit. C'est le fameux O, vous voyez, panthéisme, l'eau primordiale, tout vient du un, tout vient du grand tout. Alors ici c'est le grand tout, et là c'est le tout autre. C.S. Lewis. Leanne Payne, le tout autre. Oui. On respecte Dieu. Ici, on est dedans et on retourne dedans. Oui, c'est ça. On retourne dedans. Ça, c'est la pensée de Platon. néoplatonicisme, etc. Il retourne. Quand Platon voulait expliquer ce que c'était, ça, il prenait un verre. Il dit, voyez, cette âme hein, que vous êtes, je laisse tomber, il s'écrase dans la grande eau. Donc en fait, vous êtes anonyme. Avec Jésus, on n'est jamais anonyme. Jésus nous respecte. Et ça, c'est tout à fait différent de la pensée du monde. La pensée du monde, c'est ça. La pensée de Dieu, c'est ça. Et c'est ça, c'est la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Et Wesley l'a très bien enseigné. Et ensuite, George Ladd, en 1974, l'a repris sous forme du royaume de Dieu. Et John Wimber l'a démontré. Pour ça, avec Michel, on était, par la grâce, disons, témoin de cette réalisation. Mais après lui, eh bien, ça s'écroule. Et il faut faire attention. Voilà. Je m'arrête là parce que je vois que le temps, je me crois encore à l'université d'été. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu sur le fait que, voyez-vous, il y a des témoins qui nous ont précédés, mais qui sont encore là avec nous. Cette transmission, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, hein, parce qu'on peut perdre le salut. Bien sûr, avec les calvinistes, c'est pas possible. Vous êtes prédestinés à être sauvés. Et donc, dans toute doctrine, ce n'est pas vraiment biblique et vous met dans l'erreur quelque part. Et après, elle vous rassure, mais c'est une assurance qui vous perd. Hein. Donc il vaut mieux être dans la vraie assurance de ce que la parole de Dieu enseigne. Et elle dit que l'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures, elle est éclairée par la tradition, vivifiée par l'expérience, et confirmée par la foi. C.S. Lewis s'est converti par la raison. Il a cheminé et il a découvert Dieu. Tout à fait possible. Romain le dit, tout le temps le dit. Vous voyez, il y a 36 manières de rencontrer Dieu. La raison, elle a sa place. Et si vous l'éjectez, vous aurez des problèmes, déjà avec votre prochain, hein, mais en plus aussi avec Dieu et avec la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as donné des témoins de la foi dans le passé et en particulier John et aussi sa mère, Suzanne, qui a fait un travail formidable sur cet enfant pour qu'il nous apporte cet esprit de méthode qui a permis de bien comprendre que la foi chrétienne n'est pas juste d'être sauvé, d'aller au ciel, mais d'être aussi incarné sur la terre, de manière à parler un langage intelligible à nos contemporains pour le parler de cette foi, pour témoigner de la foi. Et aussi pour nous, pour vivre de manière raisonnable, comme tu l'as dit dans ta parole, apporter un culte logique, raisonnable. Et donc là aussi, nous avons besoin de cette raison pour, Seigneur, ne pas faire n'importe quoi de notre vie. Et Seigneur, trop souvent, nous avons tendance à spiritualiser, soit sur des prophéties, sur n'importe quoi, et on spiritualise, alors que tu nous demandes un culte logique et raisonnable. Et pour cela, Seigneur, nous te demandons de renouveler notre intelligence, de renouveler notre raison, pour que nous puissions voir comme toi tu vois les choses. Et que, Seigneur, nous ne soyons pas, Seigneur, indociles à ta parole. Seigneur, merci pour ces témoins du passé et aussi de ce que tu nous fais, nous témoins, pour que nous puissions passer le relais à d'autres et que d'autres puissent bénéficier, Seigneur, de cette sagesse. Seigneur, merci de nous accorder cette grâce. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.